d'être en sont allés à la Syrie sans l'aval du pouvoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de vous retrouver sur Sporama, votre émission sportive hebdomadaire sur VOA Afrique. Élisée Moubati devant ce micro. Le tennis d'abord et 11 jabeurs ne réalisera pas l'exploit de remporter son premier tournoi de Grand Chelem. Le handball avec le début aujourd'hui de la CAN masculine au Caire en Égypte. Et puis le football, on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN féminine au Maroc. Pour décortiquer tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Lui, il couvre la CAN féminine pour nous. Amine Birouk en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
On retrouve à Kinshasa en RDC Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ngoué est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis du côté de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auteurs de la VOA Afrique.
Enfin, Lawal Dine Kosuro, fidèle, oppose dans ce studio avec moi. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée.
Sporama, c'est parti. Nous démarrons ce numéro par un hommage à Patrick Lupica, un ancien correspondant décédé dans la fleur de l'âge et les armes à la main. Nos pensées pour ses proches et amis. On lance maintenant la balle jaune, le tennis et la défaite de 11 jabeurs en finale du tournoi de Wimbledon. La Tunisienne s'est inclinée en 3-7, 6-3, 2-6, 2-6 face à la Kazakh Elena Rybakina. À 27 ans, la numéro 2 mondiale échoue dans sa première tentative en Grand Chelem. Amine, elle était pourtant ultra favorite.
Dommage pour Ons Jabeur qui avait bien débuté sa finale face à la Kazakh Rybakina. L'avait réussi grâce à son jeu tout en touché et en variation à remporter le premier set sur le score de 6-3. Elle semblait plutôt sur la lancée de sa quinzaine londonienne avec un jeu fluide, un esprit je dirais offensif. Et puis toute la petite mécanique a commencé à se détraquer. La joueuse Kazakh d'origine russe a commencé à se sentir de plus en plus à l'aise sur le court, à lâcher ses coups droits, tandis que la Tunisienne s'est crispée et au fur et à mesure qu'on avançait dans cette finale, le jeu, ou plutôt l'avantage, a basculé d'un camp vers l'autre. Rybakina a réussi à égaliser 6-2 et puis a enfoncé le clou dans la manche décisive. Dommage pour Ons Jabeur qui aurait pu devenir la première africaine à gagner un tournoi du Grand Chelem. La première africaine à remporter ce prestigieux tournoi. Ce n'est que partie remise parce qu'aujourd'hui la numéro 2 mondiale a des certitudes. Elle l'a prouvé tout au long de cette quinzaine londonienne. On verra dans quelle mesure elle pourra rebondir très très vite lors de la tournée nord-américaine, à commencer par les tournois au Canada et notamment à Toronto.
Elle a su que sa défaite n'est pas liée à la pression.
Honnêtement, je mettais pas de pression sur moi, mais c'est juste que j'essayais de provoquer un peu ce titre-là. J'essaie de A jusqu'à Z, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour gagner ici, mais voilà, c'était pas prévu que je gagne maintenant, mais je pense que j'étais mentalement, physiquement, tout, j'étais prête pour vraiment gagner ce tournoi. Après, bah, une finale, ça arrive que ça passe pas très bien, et en plus, elle a très bien joué, donc pour moi, je peux pas vraiment trop mettre de pression sur moi, et c'est pour ça que j'essaie d'être plus positif pour le futur.
Lawal, c'était quand même une belle aventure pour la Tunisienne à Londres.
Très belle aventure, Élisée, même si on doit avoir un petit pincement au cœur pour elle, parce que ce parcours était quand même très important. Malheureusement, elle n'a pas pu l'emporter, mais c'est une façon de se relancer, parce que d'ici quelques semaines, ce sera du côté des États-Unis pour l'US Open. Donc, voilà. Ça va forcément la motiver davantage afin qu'elle puisse avoir ce titre-là. Ça va permettre à l'Afrique d'avoir forcément un premier titre de grand chelem dans cette discipline, le tennis.
On l'espère. Chez les hommes, rien n'arrête Novak Djokovic. Le Serbe remporte son 21e titre en grand chelem, le 7e, sur le gazon londonien en battant en finale l'Australien Nick Kyrgios en 4-7, 4-6, 6-3, 6-4 et 7-6. Il a désormais un trophée majeur de plus que Roger Federer, mais encore un de moins que Rafael Nadal. On reste dans l'Hexagone, précisément à Marseille, pour parler des qualifications zone Afrique au mondial de rugby. Et pas de surprise, c'est la Namibie qui sera le second représentant du continent après avoir battu facilement en finale le Kenya 36-0. Jules, la logique est respectée donc?
Logique parfaitement respectée, Élisée. Et même au-delà du seul résultat de la rencontre. Il est tout d'abord logique que ce soit deux équipes anglophones qui se soient retrouvées en finale de ce Rugby Africa Cup, car le rugby est par essence un jeu britannique dans lequel excellent les différentes composantes nationales des îles britanniques, ainsi que leurs anciennes colonies de peuplement que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Seule la France arrive à leur tenir tête. En dehors de ce petit monde, cette discipline jugée trop physique, voire brutale, a du mal à prospérer, en particulier sur le continent africain, où on apprécie plus la finesse technique d'un sport que son aspect guerrier. Dès lors, pour revenir à notre finale, la large victoire de la Namibie sur le Kenya ne saurait étonner. Entre un novice kenyan plus tourné vers d'autres sports qu'une équipe de Namibie sûrement influencée par le voisin sud-africain, dans une discipline d'abord perçue comme un sport de blanc, comme l'a si bien illustré la composition de l'équipe namibienne. Mais dans un monde où le sport est devenu un levier de développement, l'adoption et la pratique du rugby sont à encourager sur le reste du continent premier.
En Coupe du Monde l'an prochain, les Namibiens seront dans la poule A du pays organisateur, la France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie et de l'Uruguay. Rien n'est perdu en revanche pour le Kenya qui disputera un tournoi de repêchage à Hong Kong afin de gagner son billet pour cette Coupe du Monde. On enchaîne avec du handball. Début aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations masculines au Caire en Égypte. Le match d'ouverture se joue actuellement entre l'Égypte et le Cameroun. D'ailleurs, quelques matchs ont déjà eu lieu dans la journée, avec notamment la victoire non sans peine de l'Angola face à la Zambie 53-24. Succès également de la Tunisie devant le Nigeria 30-18 et de la Guinée 35-22 contre le Gabon. De son côté, la RDC démarre bien en venant à bout du Sénégal, score 31-26. Alors, Valdo, belle entame des Léopards.
Effectivement, Élisée, la RDC réussit son entrée à la 25e Coupe d'Afrique des Nations d'handball. Les Léopards ont battu 31-26 la sélection correspondante du Sénégal au terme d'un match qui a connu pas mal de rebondissements. Alors qu'ils menaient 11-8 à la première période, les Léopards ont été vite rattrapés et dominés au terme de la première mi-temps. 14-15, un petit but d'écart qui sera vite rattrapé dès l'entame de la seconde période. 18-15, les Léopards prennent les devants et se mettent en confiance avec un réalisme retrouvé. Ils l'emportent au finish 31-26 et lancent ainsi de la plus belle des manières cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball sur la terre égyptienne. Prochain match de la RDC, mardi 12 juillet contre la Zambie qui a lourdement chuté devant l'Angola, battu 53-24. Si les Léopards restent sur cette bonne dynamique, ils peuvent facilement se rassurer du prochain tour de la deuxième journée face à la Zambie. Mais il faudra rester prudent face à cette sélection qui a raté ses débuts dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball.
Avant le coup d'envoi de la 25e édition de cette CAN, le président de la Confédération africaine de la discipline s'est exprimé par rapport à l'organisation. On écoute Aremu Manzourou.
Je dois dire que nous avons tous hâte de répondre à ce rendez-vous sportif d'envergure. Le peuple égyptien amoureux du handball ne pouvait espérer mieux. Les derniers points sont en train d'être finalisés. C'est l'heure des derniers réglages et des dernières réunions. On reste optimiste. Tout est fin prêt. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que même les équipes s'activent. On attend donc de pied ferme le spectacle que les équipes nationales qualifiées vont produire pour que, sortir de cette CAN le 18 juillet prochain, les 5 meilleurs sachent dans quel groupe elles seront classées au Mondial 2023, les résultats du tirage au sort du championnat du monde étant déjà connus.
Lawal, à entendre le Béninois, des dispositions ont été prises une bonne organisation de cette CAN égyptienne.
Oui, Élisée, contrairement à d'autres disciplines, on voit bien que de côté de la CAB, on met les choses en ordre, mais des petits plats dans les grands pour une meilleure organisation. Et le président l'a martelé à nouveau. Et je crois que les gens doivent s'inspirer de cette façon d'organiser les choses au niveau de la CAB afin que d'autres compétitions puissent se faire dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, il est important de rappeler que cette organisation fait la fierté des membres de cette confédération et fondamentalement, il faudrait que d'autres disciplines s'en inspirent et lisent.
Et voilà, à noter que les 5 premières équipes seront qualifiées pour le mondial de la discipline l'an prochain en Pologne et en Suède. Sera présent sur les gazons avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football après la phase de poule. Place au quart de finale avec de belles affiches. Le pays hôte, le Maroc qui termine en tête du groupe A, affronte ce mercredi le Botswana. Amine Birouk, les Lions de l'Atlas sont à un match de leur premier objectif, celui de se qualifier pour la Coupe du Monde.
Un match du rêve à 90 minutes du bonheur, c'est en tout cas la dernière manche qui sépare l'équipe nationale féminine du Maroc de son objectif, une première qualification pour la Coupe du Monde féminine. Il va falloir pour cela s'imposer face à une coriace sélection du Botswana qui a démontré ce dimanche contre l'Afrique du Sud lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de poule qu'elle avait du répondant, notamment sur le plan défensif. Et une courte défaite 1-0, synonyme de troisième place, de place parmi les meilleures troisièmes et d'une option dans une compétition qui va changer de format puisqu'après la phase de groupe, nous allons passer à la phase de poule. Et évidemment, tout se jouera sur 90 ou sur 120 minutes. L'équipe botswanaise va venir avec une tactique très précise face au Maroc, certainement. C'est d'attendre les Marocaines et de pouvoir peut-être les contrer en profitant de la puissance de son trio d'attaque. Le Maroc est prévenu, il va jouer avec l'appui de son public. Il aura certainement le trac à surmonter et il va falloir que cette équipe entraînée par Rinald Pedros montre autre chose sur le terrain puisqu'elle n'a marqué que sur coup de pied arrêté, 3 pénaltys et 2 coups francs. Pour l'instant, 0 but dans le jeu, une certaine solidité défensive, beaucoup d'imagination en attaque, mais également beaucoup de précipitation dans l'avant-dernier et dans le dernier geste.
Pour cette difficulté à inscrire deux buts dans le jeu, Rinald Pedros, le sélectionneur, l'a expliqué à votre micro et pense être plus réaliste à partir des quarts de finale.
On voit sur le match d'aujourd'hui où on a une équipe qui défend très bas dans son camp, donc on a eu du mal à se créer des véritables occasions. Après, on a des situations en première mi-temps et on n'est pas tueurs, on ne les met pas au fond et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Après, on espère bien sûr, dans les prochains matchs, marquer dans le jeu, mais voilà, ça fait partie malheureusement du jeu et on va essayer de travailler pour retrouver de l'efficacité devant le but dans le jeu et marquer dans le jeu.
Voilà qui est dit. Bon résultat aussi pour le Sénégal qui, pour sa deuxième participation en cette CAN, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. À Médine, les filles de Moussa Cissé qui terminent deuxième de leur groupe seront opposées aux Zambiennes.
Tout à fait, Élisée, le Sénégal qui a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale après ses victoires face à l'Ouganda et le Burkina Faso affrontera en quart de finale la Zambie. Ce sera ce mercredi à partir de 17h GMT au stade Mohamed V de Rabat. Les Lions qui ont réalisé un bon parcours en match de poule avec 2 victoires et 1 défaite face au pays hôte, le Maroc, vont entamer un nouveau tournoi en défiant une équipe zambienne qui a atteint pour la deuxième fois de son histoire le stade des quarts de finale et qui aura à cœur de marquer son empreinte dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Comme le Sénégal, la Zambie n'a jamais joué les demi-finales d'une CAN féminine. Ce sera donc un quart de finale inédit entre deux belles formations, un match ouvert. Je rappelle que l'objectif du Sénégal qui retrouve la CAN après 10 ans d'absence est de se qualifier en demi-finale pour pouvoir disputer le mondial puisque les demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations vont décrocher leur ticket pour la grande messe du football mondial version dame Élysée.
Après avoir commencé timidement avec 2-0, le Cameroun a enfin signé sa première victoire. Jules, les Camerounaises vainqueurs 2-0 de la Tunisie affronteront en quart le Nigeria tenant du titre. Un match au sommet.
Élisée, le moins qu'on puisse dire, c'est à une véritable douche écossaise que les Camerounaises ont soumis leurs supporters durant les matchs de poule de cette Coupe des Nations. Avec au départ un match frustrant contre la Zambie, et une bataille rangée face aux petits poussés togolais décidés à survivre. Ce démarrage laborieux est à mettre au débit de l'entraîneur camerounais Gabriel Szabo, qui n'a pas réussi à s'élever du coaching de son club local de la Colombe de San Milima pour se mettre à la dimension de la 54e nation mondiale. En le faisant assister précipitamment par la direction technique nationale et en profitant de l'avantage d'affronter en troisième rencontre une équipe plus joueuse de Tunisie, le Cameroun s'est rapidement remis en selle et produit un véritable récital autour des virevoltantes Ngombelec, Nshut Adjara et Aboudé Ongéné, bien alimentés au milieu du terrain par l'infatigable Ngok, l'Angolo Kanté camerounaise. Le Cameroun est en quart de finale où il retrouve son rival nigérian dans une sorte de finale avant la lettre dont le premier enjeu est d'intégrer le carré d'as, ce qui est synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Une belle opposition de style, donc en perspective, entre la vivacité camerounaise retrouvée et la puissance des multiples champions d'Afrique, riches de leur expérience.
Justement, élue femme du match, Adjara Njoya en veut davantage et est prête à aller jusqu'au bout.
Très contente parce que les débuts n'ont pas été faciles. Nous avons commencé avec deux matchs nuls contre la Zambie et contre le Togo. Mais après, vous savez, les débuts des compétitions sont parfois difficiles. On avait souhaité être premier de notre pôle. Mais maintenant, peu importe l'adversaire que nous allons croiser, on va jouer.
Le dernier match de ces quarts de finale mettra aux prises l'Afrique du Sud à la Tunisie. Valdo, avantage pour les Sud-Africaines qui ont montré de bonnes choses jusque-là.
Les Sud-Africains partent largement favoris de ces face-à-face devant la Tunisie en dernier match des quarts de finale de la CAN féminine au Maroc. Invaincus lors de la phase des groupes, les Sud-Africains ont montré un visage conquérant et ont broyé tout à leur passage. Quoi de plus normal qu'elles soient placées en pole position, tenant compte également de leur réputation sur le continent. Contrairement à la Tunisie, qui a peiné lors de la phase des groupes avec seulement une victoire contre deux défaites. Et les Tunisiennes n'ont pas une réputation éloquente sur le continent et peuvent donc jouer sans contrainte, avec moins de pression et pourquoi pas, dans la mesure du possible, créer la surprise en éliminant celles qui sont annoncées comme favorites de cette confrontation. Car en football, tout peut arriver. Il suffit qu'on tombe sur un mauvais jour pour tout perdre, alors que sur papier, c'était déjà gagné d'avance.
Lawal, de belles affiches qui détermineront donc les quatre représentants africains pour le prochain mondial, coup organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Élisée, on sent bien que le foot féminin en Afrique a commencé par prendre, la mayonnaise a commencé par véritablement prendre, et aujourd'hui le Nigeria a de forts soucis à se faire, de même que le Cameroun. On sent que ces deux nations qui avaient pion sur rue dans cette discipline, mais d'autres sont en train d'émerger.
L'une d'elles manquera forcément le mondial prochain.
Forcément, on ne le souhaite pas en tout cas, mais le foot africain au féminin va forcément écrire des belles pages de son histoire, on espère, pour les huit nations qualifiées, que les quatre meilleurs puissent se qualifier pour la Coupe du Monde et que des quatre restantes, tout n'est pas encore perdu. Donc, il faudrait espérer que les unes et les autres puissent se mettre dans la tête que tout le monde peut être à la Coupe du Monde, sauf qu'il y aura peut-être deux représentants qui ne seront pas à la Coupe du Monde, mais on espère avoir au moins les six à l'issue donc des barrages, mais les quatre premières vont se qualifier directement pour cette compétition élite.
Des gazons se rendent dans les sables pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer prévue du 21 au 30 octobre du côté de Mozambique. Mais en attendant, la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires qui vont permettre de déterminer les 7 qualifiés à l'issue d'une double confrontation en aller-retour. Ainsi, à Médine, le tenant du titre, le Sénégal, jouera sa qualification face au Cameroun. Le duel des Lions.
Tout à fait, Élisée, les champions d'Afrique vont remettre leur titre en jeu en tentant de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer prévue au Mozambique du 21 au 30 octobre 2022. Mais il faut dire que les Lions, qui sortent d'une grosse saison 2021-2022 avec un statut de 4e lors du dernier mondial et un 6e titre de champion d'Afrique, vont affronter les Lions indomptables du Cameroun lors d'une double confrontation. Les poulains de Mamadou Diallo vont défier les Camerounais 16 avant de les accueillir à domicile pour la seconde match. Ce sera d'ailleurs le baptême du feu du nouveau coach Momodou Diallo en tant que coach principal, car il a remplacé l'entraîneur emblématique. Hein. Je vous parlais de Ngall Sila qui est parti au Maroc où il dirige la sélection nationale de Bistonke. Donc le Sénégal va repartir sur de nouvelles bases face au Cameroun dans un match qui s'annonce un match pièce Élysée.
Les Lions du Latiranga ne seront donc pas exemptés de ce tour qualificatif à la plus grande surprise de leur manager général Ibrahim Diagne Tchita.
On ne savait même pas qu'on allait participer au préliminaire. On pensait que comme on est détenteur du trophée, qu'on allait quand même se qualifier officiellement. Mais bon, cela ne s'est pas fait. Il y a eu un tirage, on tombe sur le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un inconnu pour le Sénégal hein, en matière de Bissoko. Mais nous, on se prépare en conséquence et on s'est toujours préparé en conséquence. Qu'importe l'adversaire qu'on aura devant nous, on jouera. C'est de nous qualifier pour ces préliminaires et éventuellement aller à Maputo et défendre encore notre titre.
Un autre lion, celui de l'Atlas, sera opposé aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Amine, un gros match en perspective pour le Maroc.
Du pain sur la planche pour l'équipe du Maroc face à la Côte d'Ivoire. Le Maroc avait été demi-finaliste lors de la précédente édition qui s'était déroulée au Sénégal. Les Marocains visent plus haut. Ils voudraient être parmi les finalistes et ainsi participer à leur première Coupe du Monde de beach soccer. Pour cela, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont recruté l'ex-patron du Sénégal, Ngall Sila. Et visiblement, ce dernier va devoir composer la meilleure équipe possible. Tout commencera par cette confrontation face à la Côte d'Ivoire, un adversaire qui semble à la portée des Marocains, pour peu qu'ils puissent faire preuve de concentration, de sérénité, de bonne organisation et d'efficacité dans le dernier geste. C'est le péché mignon de cette équipe qui avait poussé le Sénégal dans ses derniers retranchements demi-finales il y a 24 mois, mais visiblement, la chance et la précision avaient manqué cette fois-ci, espérant déjà pour ce tour préliminaire qu'elle soit au rendez-vous.
Pour le reste des rencontres, on aura Seychelles, Madagascar, Comores, Ouganda, Malawi, Tanzanie, Libye, Nigeria et Ghana, Égypte. Alors Valdo, finaliste lors de la précédente édition, le Mozambique pourrait avoir sa revanche à domicile, surtout face au Sénégal.
Bien entendu, Élysée, le remake d'une finale en phase qualificative pour le tournoi. Finale, match à jouer en aller, retour, sacré tirage pour les deux nations, les Sénégal qui s'étaient offert les titres en l'emportant sur ses terres face au Mozambique, a là la possibilité de confirmer sa domination, cette fois en aller-retour, ce qui est loin d'être un acquis lorsqu'en face l'adversaire trouve en pareille circonstance l'occasion de refaire ce qu'il peut qualifier de faux pas d'une finale perdue. Force est de constater qu'à l'issue de ces face-à-face, l'un des deux finalistes de la dernière édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique de beach soccer sera privé des compétitions. Élysée, les Mozambique sait qu'il est dans l'obligation de l'emporter à domicile, ce qui ne sera vraiment pas le plus dur puisqu'il faille encore retourner en terre sénégalaise où il avait non seulement été battu, mieux privé des titres continentaux par les locaux. Quand on sait qu'il a toujours été préférable qu'un champion en titre défende son titre lors d'une phase finale.
On vient vers vous, Jules. C'est une discipline qui commence par prendre sur le continent.
Oui, Élysée, cette discipline commence à prendre de l'importance en Afrique, où 38 pays sur 55 possèdent une côte maritime. Il faut en effet savoir que le beach soccer, malgré son appellation anglophone, s'est plutôt développé à l'origine sur les plages brésiliennes, où plusieurs stars de l'équipe nationale, la spectaculaire Seleção, se sont longtemps mêlées aux pratiquants de ce sport ludique de plage, afin de travailler leurs chevilles dans un pays où la côte tropicale est illimitée. Entre-temps, dans la foulée du football de salle, la FIFA en a fait une discipline autonome au point d'organiser des Coupes du Monde, lors desquelles les premiers ambassadeurs de l'Afrique, le Cameroun puis le Sénégal, ont brillamment représenté le continent grâce à une prospection judicieuse dans les grands pays de football. Depuis, l'expérience a fait tache d'huile et des fédérations nationales se sont multipliées avec des consistances disparates. Il s'agit actuellement de renforcer et pérenniser l'organisation de la discipline sur le plan local, le potentiel physique et humain étant immense. La balle est désormais entre les mains des décideurs.
À noter que les matchs allés de cet unique tour qualificatif auront lieu entre le 22 et le 24 juillet. Les retours entre le 5 et le 7 août. Merci de nous avoir suivis. Sporama, c'est fini. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain. Au revoir.